À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h,
un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas,
107 FM.
À table.
Et rien de mieux que Chaud Patate pour accompagner votre repas un samedi sur deux à 12h30.
Bonjour à toutes et à tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le 18e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, le projet alimentaire de territoire du Sud-Lozère. Aujourd'hui, c'est Floriane qui vous parle et j'anime ce projet avec Louise Donizot au PETR. L'objectif du projet alimentaire de territoire, c'est rendre accessible à tous et à toutes une alimentation saine, durable et locale. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation et qui souhaitent s'impliquer, par exemple, dans l'installation de nouveaux agriculteurs ou agricultrices, pour développer les circuits courts, proposer des ateliers cuisine ou instaurer l'éducation au goût et faire des ateliers potagers à l'école. L'émission précédente a traité de la sécurité sociale de l'alimentation et de tout ce qui se passe en ce moment en Sud-Lozère avec la création de l'ACLAS, l'association pour une caisse locale alimentaire en Sud-Lozère. Il y avait autour du micro Marie, du contrat local de santé, porté par la Comcom Gorge-Causse et Cévennes, et Émilie, chargée de projet accompagnement des territoires pour la transition écologique du réel, accompagnée évidemment de Louise, ma collègue. Et depuis cette émission, la première réunion du comité citoyen a eu lieu, c'était le 7 février, et ça a rassemblé 70 personnes super motivées pour réfléchir à ce projet dans les 6 prochains mois. Mais aujourd'hui, je suis accompagnée par 3 étudiantes et un étudiant de l'Institut Agro pour parler de l'émergence d'une filière olive en Cévennes lozérienne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on a Léa, Soizic, Nathan et Céliane autour du micro et on dit bonjour à Léo à la technique. Merci Léo.
Salut à vous.
Donc l'idée, c'était de réfléchir en fait et d'accompagner quelques agriculteurs des vallées Cévenoles qui, en voyant dépérir leurs châtaigniers, ont eu envie d'essayer de planter des oliviers. Donc le PAT a souhaité réfléchir avec eux et avancer dans cette adaptation des fermes au dérèglement climatique et de voir comment ils pouvaient diversifier leur culture pour rendre leurs fermes plus robustes. Donc on a eu l'idée de faire travailler quelques étudiants de l'Institut Agro sous la forme d'un projet tutoré mettre les premiers jalons de cet accompagnement des agriculteurs des vallées Cévenoles. On a fait ça avec le Parc National et on leur a demandé en fait à la fois d'aller rencontrer les agriculteurs mais aussi de commencer à nous dresser un peu un panorama des acteurs de la filière olive la plus proche de chez nous, c'est-à-dire plutôt dans le Gard. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu quelle méthode de travail vous avez pris pour travailler sur cette question ?
Oui, eh bien, pour répondre aux objectifs, on a donc rédigé un petit questionnaire qu'on a fait sous forme d'entretien semi-directif avec différentes structures, avec des agriculteurs, des agricultrices et des personnes qui avaient des métiers associés. Et donc, on est allé sur les exploitations parfois, d'autres fois on a fait l'entretien plutôt par téléphone et ça nous a permis de voir déjà combien d'oliviers étaient plantés, quelle était la gestion qui était qu'est-ce qui était fait sur ces parcelles d'oliviers, sur ces plantations, à quel point c'était important la plantation d'oliviers en Sud-Lozère. Et ça nous a aussi permis de rencontrer énormément de personnes, notamment lors de 2 journées de fête de l'olive, auxquelles on a assisté à l'automne.
Oui, donc on a assisté à 2 fêtes de l'olive, une à Alès et une à Saint-Étienne-Vallée-Française. Ça nous a permis d'avoir quand même un panel de personnes qu'on avait déjà commencé à contacter, mais donc on n'avait jamais vu. De voir quelques éléments la taille de formation avec Sylvie Dupart et donc d'avoir
de pouvoir commencer à avoir des échanges, même avec certains agriculteurs et acteurs, acteurs techniques et associatifs sur l'olive.
Vous avez rencontré des pépiniéristes, oui. des gens qui font tourner des moulins, notamment le moulin du Coudoulou.
Oui, du coup, oui, on a rencontré des pépiniéristes qui étaient sur place, justement dans l'accompagnement sur le choix de variétés d'olives. Et oui, il y a eu le moulin du Coudoulou, il y a eu l'association Fruits Oubliés, justement qui fait un travail sur les variétés d'olives en Cévennes. Et principalement, et aussi France Olive, qui est un acteur majeur dans la filière olive en France. Quoi. Voilà.
Ok, donc ça, c'était le début du travail. À la fois, vous plongez un peu dans le monde de l'olivier grâce à ces deux journées qui avaient eu à l'automne. Ensuite, aller sur les fermes et rencontrer la dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont choisi de planter des oliviers et de tester un peu cette culture sur les communes. Vous pouvez nous dire quelles communes ?
Oui, au total, on a eu 7 communes. Et parmi les 7 communes, on avait Sainte-Croix-Vallée-Française, Molaison ou Le Pompidou.
Ok. Et ensuite, ça consistait à quoi la suite de votre étude ?
On a analysé tous les questionnaires qu'on avait. On a vraiment fait en sorte de créer le panorama d'acteurs, voilà, de manière concise et claire. Et en fait, on a eu une réunion donc cette semaine au PETR. Donc, pour présenter un petit peu aux différents acteurs nos résultats, ce qu'on avait trouvé, ce qu'on en avait déduit, et voilà.
Donc, en fait, l'idée, c'était de vous faire aller rencontrer les agriculteurs pour évaluer un peu les besoins qu'ils avaient et aussi les envies qu'ils avaient sur l'éventuelle création d'un réseau d'échange de pratiques. Et donc, les enquêtes que vous avez menées, elles nous montrent que, oui, il y a une envie de travailler sur cette question-là à plusieurs. Et on a pu aussi faire le tour un peu des partenaires agricoles du sud de Lozère et voir qui pourrait s'impliquer dans l'animation de ce réseau d'échange, notamment le Parc national des Cévennes qui pourrait poursuivre le travail sur les variétés, les différentes variétés et leur adaptation au contexte cévenol. Et puis la Chambre d'agriculture et peut-être encore d'autres pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire là maintenant avec les agriculteurs pour l'année 2026. Qu'est-ce qui vous a le plus emballé dans ce travail de 4 semaines que vous avez réalisé ?
Le travail qui nous a le plus plu, ça a été notre deuxième semaine sur le travail de terrain, où on a pu mettre vraiment en pratique ce qu'on avait vu en bibliographie et en théorie, quoi.
Moi aussi, c'est ce que je préfère, d'aller chez les gens, voir comment ils travaillent.
Et au moins, on avait vraiment un contact aussi humain avec, avec les agriculteurs, savoir leurs envies, leurs pratiques. Je trouvais que c'était quand même relativement chouette. Et ce qui était en plus très chouette, c'est de découvrir un peu plus les Cévennes lozériennes. Parce qu'on a été un peu partout, dans des coins un peu paumés, mais c'était assez sympathique. Donc, voilà.
C'était très agréable aussi de rencontrer des personnes qui étaient passionnées par ce qu'elles faisaient et qui pouvaient nous parler vraiment pendant assez longtemps finalement de leurs oliviers et puis parfois d'autres choses. C'était très agréable en fait les entretiens, ça nous a beaucoup appris et ça a permis aussi de en quelque sorte tisser des liens et nous de mieux comprendre la dynamique locale, par exemple sur le collectif.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets collectifs au niveau agricole chez nous.
Et donc ça, pour nos propositions sur comment animer le réseau d'accompagnement sur la filière olive qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de rédiger, ça, je pense que ça va nous aider pas mal vraiment d'avoir bien appréhendé le contexte.
Ok. Et le pire moment que vous avez vécu ?
La pluie quand on allait visiter les certaines oliveraies. Mais sinon, je pense, je parle au nom de tout le monde, on n'a pas eu vraiment de mauvais moments, de mauvaises surprises. C'était quand même un projet très chouette et qui nous a vraiment aidé à comprendre en fait vraiment la dynamique de l'olivier en Lozère, quoi.
Et qu'est-ce que vous retiendrez de ce travail pour la suite, là, quand vous allez partir en stage et ensuite la suite de vos études ?
Je pense que c'est un travail qui était très intéressant. Déjà sur le volet un peu sociologie, en fait, c'était très très agréable de rencontrer des personnes. Je pense dans la méthode de diriger un entretien et la méthode aussi pour compléter un questionnaire lors d'entretien, parce que les entretiens pouvaient être un petit peu décousus. Et donc, ça ne suivait pas forcément l'ordre dans nos entretiens semi-directifs en présentiel. Mais c'était très intéressant. Et aussi dans la méthode d'analyse de ces questionnaires pour en tirer finalement les informations qu'on avait envie d'avoir à la fin. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Sozik ?
Oui, juste pour ajouter justement cette manière d'analyser sur plus le côté qualitatif que quantitatif. Et donc de nous permettre... de voir plus le côté humain, les pratiques qui sont faites, et aussi avoir plus un travail de fond, non pas sur le nombre, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas un nombre suffisant d'oliviers. Par contre, il y a des envies et des besoins par les agriculteurs.
Voilà. Et oui, d'ailleurs, on ne l'a même pas dit. Donc, en fait, la filière olive dans les Cévennes lozériennes, pour l'instant, c'est... environ 400 arbres qui ont donné à peu près 63 kilos d'olives cette année. Donc on a une bonne marge de progression.
Ouais, précisément, on est sur 319 arbres, ce qui est quand même un petit peu moins que 400. Désolée Floriane. Mais effectivement, 63 kilos d'olives en tout récoltés dans le territoire du sud de Lozère.
Des personnes qu'on a interviewées seulement. On n'a pas réussi à interviewer tout le monde, c'était aussi le, ouais. C'était aussi le challenge aussi de trouver tout le monde et de trouver du temps avec eux. Donc, de ceux qu'on a interviewés, c'est 63 kilos sur l'ensemble du sud de Lozère pour les personnes agriculteurs et professions associées.
Okay. Voilà, sachant que ça ne prend pas en compte les particuliers ou les communes.
D'accord. Et alors, on part quelque part, là, c'est ça ?
Du coup, on vous emmène sur les parcelles de Julien Tosse au Pompidou et voir ce qu'il anime pour planter ses oliviers.
C'est un peu bizarre, là vous arrivez un jour où il y a plein de brume, on n'a pas du tout l'impression qu'on est l'olivier c'est plutôt un arbre emblématique de la Méditerranée, et là ça paraît assez atypique de voir des oliviers dans un paysage embrumé comme ça, mais bon, on verra bien s'ils tiennent justement. L'idée c'est plutôt... Ben c'est justement un pari un pari agronomique, on verra bien si ça tient. J'ai commencé à ouvrir il y a 3-4 ans. C'est une ancienne châtaigneraie avec des arbres plutôt dépérissants. C'est colonisé un peu par les chênes verts.
Ok.
Parce que c'était un versant assez bien exposé, mais c'est... Et surtout, c'était des terrasses de... Vous voyez les bancelles, là ? C'est d'anciennes cultures qui s'étaient réenforestées, mais c'était quand même un endroit à cultiver. Je pense que ça devait être les vignes des châteaux que vous avez vus en arrivant ici. Parce qu'à mesure que j'ai débroussaillé, je me suis rendu compte qu'il y avait... c'est surtout ça que j'exhumais, quoi, des vieilles vignes. Voilà, les premiers oliviers... Il y en a une quarantaine. Alors celui-là est tout petit, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus vaillants. Là, ça fait trois... les plus anciens, ça fait 4 ans. Les plus anciens que j'ai plantés. Puis ça, pour l'instant, c'est pas mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle, c'est une... Elle est artisanale. Je suis fabricant de pâtes. Mon atelier à Florac. Je transforme en fait des semoules que pour partie je produis et à partir de blé qui est cultivé dans le Gard, donc autour d'Anduze. Donc du blé dur qui est transformé en semoule et ensuite moi je fabrique des pâtes. Et ouais, les oliviers c'était en plus. Mais là, les oliviers que j'ai mis ici, c'est bon, c'est pour plus tard quoi. Voilà. Si un jour j'arrive à presser des olives et avoir un peu d'huile, c'est super, mais là, la quantité d'arbres qui... Enfin, je pense que... Voilà, là, il y a pour l'instant une quarantaine d'arbres, il y en aura peut-être maximum 70 quand j'aurai dégagé tous les bancelles cultivables. Avec ça, je peux peut-être produire une petite quantité d'huile. L'an dernier, j'ai réussi à avoir 2 kilos, 3 kilos d'olives sur tous les arbres, donc...
Allez-y.
En débroussaillant ces anciens bancelles, Julien nous a fait part d'une découverte singulière. Il nous en parle.
C'était un olivier qui était là depuis très longtemps, mais qui était complètement, complètement embroussaillé. Enfin, il faisait 4 ou 5 mètres de haut, mais c'était un... Il était tout filiforme, il allait chercher la lumière entre le chêne vert très très haut, mais il était pas du tout productif et pas du tout... Enfin, en fait, je l'ai découvert par hasard, quoi, en débroussaillant dans ma forêt. Alors, il a pas l'air si grand parce que chaque année, je lui enlève un mètre. Le diamètre de la souche, c'est quand même plus de 60 cm, quoi. Ouais. Donc, oui, il est là depuis longtemps, mais si on... Vous voyez où il est implanté, il est contre un rocher dans un endroit vachement... Le bancel, il fait une courbe, c'est vraiment un des endroits les mieux exposés du coin. Il devait être là, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, je sais pas, peut-être bon an, mal an, il devait avoir quelques olives. Mais oui, c'est ancien quand même. Après, évidemment, l'arbre, il a gelé, donc je sais pas quand. Peut-être dans les années 80, mais j'ai pas trace de... Peut-être c'était plus ancien. Et donc, il y a 6-7 petites ronds qui repartent tout autour. Et bah, vous voyez, quand je suis arrivé, ils étaient plus hauts que ce chêne vert, là. Donc c'était un espèce d'olivier filiforme qui cherchait un peu de lumière tout en haut, mais je l'ai, au départ, j'y ai même pas fait attention, quoi. Puis à mesure de m'intéresser à la question, j'ai réalisé que c'était un olivier. Et là, du coup, ça fait que depuis un an et demi que ce bancel-là est ouvert. Et du coup, je l'ai chaulé pour pas qu'il brûle, parce qu'il s'est retrouvé, en pleine lumière... Alors que le tronc était très dégarni parce qu'il était sous la fosse. Enfin, il était pas. Il n'y avait pas de branches basses du tout, quoi. C'était que des branches très, très hautes. Et je l'ai rabaissé un peu chaque année. Là, cette année, je pense que je vais réussir à lui donner un peu une taille. D'olivier.
Cette découverte n'est pourtant pas à l'origine de son envie de planter des oliviers.
J'avais quand même l'idée de le faire. Cet arbre-là, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années quand je suis arrivé ici. Je me disais, bon, peut-être je pourrais prendre des oliviers, mais c'était parce que l'arbre me plaisait, parce que moi je suis né au bord de la Méditerranée, mais c'était pas du tout dans l'idée d'en cultiver sérieusement. Mais là, depuis quelques années, je me suis quand même dit, bah, essayons en fait. Tous les châtaigniers sur les versants sud, ils sont tous desséchés. Enfin, on a l'impression quand même qu'il se passe des choses, hein, que les cultures sont peut-être plus tellement adaptées au changement climatique. Du coup, bah, c'est un pari. Ceci dit, c'est pas non plus une culture que j'ai implantée pour en tirer un revenu, encore moins un revenu principal. Hein, je pense que pour réussir à être oléiculteur ou oléicultrice, il faut avoir un grand terrain en plaine, mécanisable.
Comme beaucoup d'autres agriculteurs, Julien Tosse se questionne au vu des changements climatiques. Est-ce que l'olive pourrait remplacer ou complémenter les revenus des agriculteurs en Lozère ?
Il y a plein de gens qui vivent de la culture de la châtaigne, même si c'est parfois des activités secondaires. Mais ça continue de faire vivre pas mal de monde. Mais par contre, par rapport aux surfaces disponibles, aux châtaigneries qui sont disponibles, il y a peut-être... toutes les châtaignes qui tombent dans les Cévennes sont loin, 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 loin d'être ramassées. Et il y a plein d'espaces qui sont pas cultivés. Bon, celui-ci, là où on est, c'en était un. Moi, je ramassais pas les châtaignes de ces arbres. Ces arbres, ils s'abîmaient. Il y a d'autres endroits où il y a des châtaignes qui sont en meilleur état que je continue de ramasser. Mais j'ai laissé les plus gros châtaigniers en plein milieu de ce qui pourrait devenir une oliveraie. Parce que j'avais pas le cœur de couper des arbres de plus de peut-être 150 ou 200 ans, là. Mais par contre, je les ai sévèrement élagués et je les maintiens très petits, en tout cas avec un port qui évite de nuire, en tout cas en termes de lumière, aux arbres qui sont autour, aux oliviers qui sont autour. Mais c'est plutôt dans l'idée que si après-demain ça change de nouveau, il y aura peut-être de nouvelles possibilités d'avoir des châtaignes à cet endroit-là, on verra bien.
Parmi les personnes enquêtées, beaucoup ne se considèrent pas assez formées sur la culture de l'olivier. Julien Tosse lui fait partie des personnes qui se sentent assez outillées pour pouvoir partager ou continuer la culture de l'olivier dans les Cévennes. Il nous en parle.
Moi, j'ai beaucoup appris avec Sylvie Dupart. Sylvie Dupart qui est formatrice à l'association Le Filon Vert, vers Toiras, là, ou Saint-Félix-de-Palière. Voilà, sur la taille, l'arboriculture en général, elle est super calée. C'était il y a longtemps déjà que je l'ai rencontré. Après, non, c'est sur le tas, en échangeant avec des personnes qui pratiquent aussi. Je participe à des chantiers de taille et de ramasse d'une olivrée, ouais, vers le Mont Bouquet. C'est amateur, hein, mais oui, c'est intéressant de tailler des arbres qui sont en production pour se rendre compte un peu mieux de ce qu'il faut favoriser en taille de comment dire, en taille de formation, quoi. Voilà. Donc oui, je transfère un peu les choses que j'apprends d'un endroit à l'autre.
Suite à cela, nous lui avons demandé quelles étaient ses pratiques quant à l'irrigation et à l'amendement.
Pour l'instant, j'ai quand même profité du fait que c'était la forêt, enfin une forêt de chêne vert. Du coup, bon, même si c'était une végétation assez basse, j'ai peut-être légèrement dégradé la fertilité du sol en ouvrant beaucoup. Il y a beaucoup de lumière maintenant, mais du coup, il y a beaucoup moins d'humus possible. Mais j'ai peut-être profité de la situation. Après, j'ai beaucoup paillé avec tout ce que je débroussaille et j'ai apporté un petit peu de fumier de chèvre, mais c'était vraiment à peine. Ouais. Voilà. Sur le terrain, là, c'est des bancelles, donc des terrasses assez étroites et sur lesquelles je peux pas venir avec un véhicule. Enfin, je peux m'approcher à une cinquantaine de mètres, mais donc c'est pas des arbres qui sont irrigués, en tout cas, c'est pas prévu qu'ils soient irrigués de manière pérenne. Après, les jeunes arbres, bah, j'ai quand même porté un peu d'eau, mais plutôt en mode survie, quoi. Je leur ai donné les deux premières années, chacun 60 litres d'eau par été. Donc, 4 fois 15 litres, c'est vraiment très très peu d'eau. Mais bon, c'était... L'idée, c'était aussi de voir si c'était possible. C'est quand même pas un arbre qui a besoin normalement de beaucoup d'eau. En tout cas, pour produire pour faire des olives, pour avoir de l'huile, c'est pas nécessaire d'irriguer. C'est en revanche nécessaire d'irriguer si on veut avoir de grosses olives de table. Mais là, pour pas perdre les olives, évidemment, il faut qu'il pleuve au bon moment, mais là, cette année, on n'en manque pas.
Étant donné que la Lozère n'est pas une région oléicole, nous avons voulu savoir quelle variété il avait sur ses parcelles.
En fait, j'ai choisi de multiplier les variétés. J'en ai mis plein, il y en a une quinzaine différentes. Et pour sélectionner celles qui me paraissent les plus adaptées, on verra bien. Il n'y en a pas plus de qui sont plus présentes que d'autres, mais par contre, je commence déjà à voir celles qui ne sont pas adaptées, quoi. Typiquement, j'aurais dû un peu mieux me renseigner et éviter de planter les variétés ardéchoises que je pensais être les plus proches d'ici, mais en fait, qui sont adaptées à un sol calcaire et du coup, qui prennent pas bien racine ici.
Parce qu'ici, on est sur un sol schisteux.
Ici, c'est 100% schiste, ouais. Okay.
Nous avons ensuite parlé des problèmes qu'il aurait pu rencontrer lors de sa culture.
Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de... Les problématiques, c'est plutôt la faune sauvage, quoi. Un peu comme toutes les personnes qui cultivent des trucs en milieu ouvert. Il y a un peu de dégâts avec des chevreuils, des petits cervidés. Mais c'est... Mais au niveau sanitaire, sur les arbres en eux-mêmes... J'ai pas assez de recul. Je pense que ce qui serait problématique, c'est si on avait des printemps ou des automnes aussi humides que l'hiver qu'on a là. Ouais, là c'est sûr, ce serait plus possible de... Enfin, ils supporteraient pas de... Bon, là, ça va parce que les sols sont quand même bien drainants, mais si on était comme ça, s'ils avaient le... Moi, dans un sol aussi éponge qu'en ce moment-là, ils pourraient pas rester tout au long de l'année, quoi.
Pour finir, nous lui avons demandé quelle évolution il imaginait pour le paysage et quelle place aurait l'olivier dans ce dernier.
Non, je sais pas dire. Le paysage, il évolue, en tout cas en termes de culture. Moi, j'imagine pas ici, ça va pas devenir la Toscane et encore moins la Sicile, mais par contre, je pense que c'est possible de cultiver des olives. Au moins, comme une activité annexe. Je pense que c'est possible quand je vois à quel point il peut faire chaud maintenant l'été, des fois des ensoleillements des heures d'ensoleillement qui sont vraiment plus nombreuses. Bon, je suis pas météorologue, mais j'ai l'impression que
on est plus près des conditions qu'il faut pour cultiver des oliviers qu'avant. Voilà. Mon idée, c'est quand même que ça se développe un peu, mais dans les limites de ce que peut entretenir une seule personne. Donc, pour l'instant, c'est quand même pas une activité qui m'occupe beaucoup, et j'aimerais surtout éviter qu'elle m'envahisse. Hein, je veux juste que ce soit possible de le faire. Du coup, là, il y a 40 arbres, il y a 8 bancelles. Peut-être qu'il y en aura 12 de cultiver en tout un jour. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est possible. Mais je préjuge pas de mes forces. On verra bien ce que j'arrive à garder ouvert. Voilà, chaque année, j'essaie d'en planter un petit peu plus, d'ouvrir un bancel de plus ou de en rallonger un.
Ben merci à tous les quatre pour cette chouette balade dans l'oliveraie de Julien. Il me reste juste à terminer pour dire que le PETR, dans le cadre du projet alimentaire de territoire, va poursuivre en fait ce travail d'accompagnement avec les agriculteurs qui le souhaitent et essayer de monter ce réseau d'échanges de pratiques avec l'idée de temps sans doute de chantier collectif. Voilà, on va réfléchir avec eux sur comment on peut faire vivre ce beau projet. On verra dans 10-15 ans, ça sera effectivement sans doute pas la Toscane, mais peut-être qu'on aura une petite production d'huile d'olive Sevenol. En tout cas, encore merci à vous quatre pour ce super boulot. Pour toutes celles et tous ceux qui voudront plus d'infos sur le travail qui a été réalisé et la suite de ce qu'on va pouvoir proposer avec le PAT, rendez-vous sur notre site internet dans quelques semaines. On aura tous les documents que les étudiants sont en train de peaufiner. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter aussi au PETR. Il me reste juste à annoncer deux journées qui s'inscrivent dans le cadre de l'année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux qui sont organisées par le Parc national des Cévennes et le syndicat des Hautes-Vallées Sevenol autour justement des paysages et de leur évolution. Donc ça sera le mercredi 4 mars du côté du relais de l'Espinasse à Ventalon en Cévennes et le samedi 7 mars entre Saint-Germain-de-Calberte et Saint-Martin-de-Boubeau. L'idée c'est de faire une balade lecture de paysages l'après-midi et de poursuivre par une soirée discussion autour de la façon d'habiter les paysages et de questionner un peu l'avenir. Voilà, vous êtes les bienvenus.
Voilà, pour conclure la première partie de cette émission, on vous laisse avec La Petite Olive des Vrigels, une chouette musique pour finir en légèreté.
Julie, la petite olive, rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée, avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés.
C'est bon, Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. Comme ça, c'est la nature et c'est très bon avec les endives.
Julie, la petite olive, l'entendait pas de cette oreille. Comme elle avait la verve vive, elle prit à partie le soleil.
Vous, monsieur, vous tournez près de 24 heures par jour. Le monde, vous le connaissez, vous en avez déjà fait le tour. Moi, je suis prisonnière de cette grosse branche en bois. Dites-moi donc ce qui se passe sur terre. Oh oui, s'il vous plaît, racontez-moi.
C'est bon, Julie, arrête de les lui briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un saladier. On est né pour faire copine avec les endives. Le soleil, lui, s'en tape, il connaît rien, l'huile d'olive.
Mais l'astre du jour, par sa requête, fut ému et lui dit, rayonnant d'amour, je vais commencer au début. Au bout d'une dizaine de mois, il finissait le préambule, le Big Bang et tous ces trucs-là, la naissance des premières cellules. Et Julie l'écoutait, passionnée, attentive, ouvrant grand ses oreilles pour n'en point perdre un mot. Mais hélas, la vendange tardive des olives coupa leur entretien avec tout le rameau.
Cette fois, Julie, c'est terminé. Allez, monte dans le camion qui nous emmène chez Puget. Ta gueule et tu dis bonjour aux endives.
Mais Julie ignorait que le soleil, ce gros bavard,
de lumière l'avait gavé pendant qu'il contait ses histoires. Et arrivé au pressoir, le propriétaire agricole eut besoin d'une chaise pour s'asseoir et s'écria:
wow, la bestiole! Prénom de nom, fit plus dieu, j'hallucinion. Par les baloches du cornu, j'ai dû abuser du litron. Cette livre, on dirait que c'est la couille de Godzilla. Va m'en falloir des endives pour me contenter, cette bête-là.
Et Julie, que la joie inonde grâce au miracle de la nature. C'est avec quatre tours du monde dans les salons de l'agriculture.
Et pour continuer sur l'olivier, nous avons Jean-Jacques qui va nous faire notre chronique jardin tant attendue et qui va évidemment nous parler de la culture de l'olivier.
Yes, yes, my flowers are beautiful.
Jackie, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Et qui les écoute aussi, c'est important.
Et il les a trouvés où, ces légumes? Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte?
Le drame avec Jean-Jacques, c'est qu'il ne peut pas contrôler ça.
Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour. Très beau sujet, l'olivier, très beau sujet. Quand on pense olivier, on pense colombe. On pense aussi Jeux olympiques, je vous expliquerai après pourquoi. Alors déjà, l'olivier, c'est vraiment le symbole de la Méditerranée. Et ça aussi, on va l'expliquer. Alors l'olivier, il est de la famille des oléacées. J'aime bien le dire, pourquoi? Parce que quand on connaît la famille, le nom de famille d'un arbre, d'une plante, on a déjà une indication sur ses exigences. Oléacées, donc c'est une famille. Je vais vous donner d'autres exemples d'oléacées. Par exemple, le lilas, le troène sont des oléacées. D'ailleurs, le lilas se greffe sur troène. Je pense au forsythia, qui est un oléacé. Et je pense à un arbre qui est très fréquent en Lozère, surtout sur le calcaire. Je pense au frêne. Voilà. Donc, le frêne, qui est un arbre rustique et peu exigeant, je parle pareil pour le lilas. Donc ça va nous expliquer un peu pourquoi l'olivier est un arbre de cette famille, qui est donc un arbre rustique et résistant et coriace, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors l'olivier, il vient d'où et il est arrivé quand? Et oui, parce qu'il n'est pas d'ici quand même l'olivier. L'olivier, il est arrivé, c'est une des premières domestications de l'homme, donc ça vaut quand même... c'est presque un peu ému que je dirais, entre le Sahara et la Méditerranée orientale. Entre les deux, il y a l'Égypte. Mais bon, vous voyez à peu près, vous situez. Mm-hmm. Et pourquoi il vient de là? Parce que le climat, alors j'ai dit, il y a 11 000 ans. Donc 11 000 ans, c'est quand même, c'est pas aujourd'hui. L'homme commençait à peine à inventer l'agriculture que déjà, il a vu dans la nature une plante sauvage, l'olivier sauvage, qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est un cousin de l'olivier, c'est un cousin, hein, c'est pas un descendant, c'est un cousin de l'olivier domestique, qui s'appelle l'oléastre sylvestris. L'oléastre, c'est un olivier sauvage, plus petit, plus dense, plus épineux, comme sont souvent les arbres sauvages. Avant qu'ils n'aient été améliorés, ce sont des arbres qu'on trouve dans la garrigue, qui produit des olives, des petites olives. Voilà. Donc l'homme l'a successivement amélioré. Donc il est né dans un climat méditerranéen. L'olivier aime le climat méditerranéen. Et qu'est-il arrivé à la planète il y a 11 000 ans? Eh bien, c'était la fin de la dernière glaciation, alors mondiale, et là on va parler de l'Europe. La dernière glaciation en Europe a débuté il y a 115 000 ans, et étrangement, c'est terminé progressivement il y a 11 700 ans. C'est très précis. Voilà.
C'est vrai.
Voilà. La déglaciation, c'est-à-dire un changement de climat majeur, a été plus lente, elle a duré 8000 ans. C'est-à-dire, on va dire, jusqu'à l'an 2000 avant Jésus-Christ. Eh bien, pendant ce temps-là, le climat de la Méditerranée a évolué. C'est-à-dire que le climat méditerranéen du sud-est, on va dire de l'Égypte, s'est progressivement remonté vers la Crète, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc l'olivier a suivi, tout simplement, parce que l'homme, au travers de toutes les civilisations, que ce soit les Égyptiens, l'introduction de l'olivier date aussi des Égyptiens et les Grecs. Et bien évidemment, les champions, c'était les Romains, puisque bien sûr les Romains, ils ont drainé tout un tas de plantes, que ce soit la vigne, certains arbres fruitiers, et dont l'olivier, jusqu'en Espagne, en passant par la France. Et c'est de ce jour-là que l'olivier s'est répandu en Europe et donc en France, tout autour de l'arc méditerranéen. Voilà. Voilà l'histoire de l'olivier.
Mais merci déjà pour ce panorama.
Voilà. Mais c'est important de comprendre que finalement, avant même que l'homme n'ait, comme aujourd'hui, fait changer le climat, et ça va là très vite. Le climat, j'ai appris moi-même en lisant des articles que le climat de la Méditerranée n'était pas il y a 10 000 ans ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Et on le constate aujourd'hui, le climat de la Méditerranée continue de progresser vers le nord. Donc ça va être quelque chose de positif, on va dire, pour la culture de l'olivier en Cévennes.
Et oui, c'est pour ça que
voilà.
Des agriculteurs se sont dit qu'ils pouvaient peut-être en planter.
Alors, l'olivier, on a dit le oléacé, une famille rustique, c'est un arbre plus rustique que ce qu'on pense. C'est même un arbre sûrement parmi les plus rustiques. Alors déjà, au niveau du froid, c'est le paramètre principal. Un olivier résiste allègrement à moins 15 degrés pendant un certain temps. Je l'ai testé, moi, à Hispaniac. J'avais planté un petit olivier à peu près en 2010. Et en 2012 est survenue la dernière vague de froid que la France ait connue. C'était 2012. Hein. Nous n'avons pas eu de vague de froid en France depuis 2012. On a eu moins 14 la nuit et 0 le jour pendant une douzaine de journées. Mon olivier, qui était tout petit, a parfaitement résisté. Et pourtant, il est au pied de la maison, pas très bien exposé, à l'ombre de la maison des voisins. Donc c'est peut-être pas le mieux pour un olivier. Malgré ça, et sans dégel certains jours, l'olivier n'a pas perdu une feuille. Donc déjà, ça donne une perspective sur la résistance au froid de l'olivier. La seule chose qui pourrait faire que l'olivier gèle, c'est la vague de froid de 1954 et 1956. Là, bien évidemment, il y a eu moins 20 dans le Midi, il y a eu moins 30 en Lozère. Et là, effectivement, les oliviers, même du Midi, ont quasiment tous gelé.
Et d'ailleurs, à ce propos, l'association Fruits Oubliés est en train de faire un travail de recherche des anciens oliviers qui auraient résisté à cette vague de froid de 1956 et de déterminer du coup les variétés d'oliviers qui ont résisté pour, oui. Pour faire en sorte que les pépiniéristes oui. dupliquent ces variétés-là en priorité.
Oui, oui, oui. On dit que la résistance de l'olivier, c'est moins 10 à moins 20, donc pour moi, c'est un peu trop large. Pour moi, moins 15, tous les oliviers résistent. Il y a même une variété qui résiste à moins 25, je ne me souvenais plus du nom, mais je ne suis pas un spécialiste de l'olivier, mais quand même, c'est une plante rustique. Alors la seule chose qui pourrait, alors le froid persistant n'aime pas, l'olivier n'aimera d'autant moins le froid s'il est planté dans une terre lourde, argileuse, qui ne se réchauffe pas, où l'eau stagne. Donc, de toute façon, on ne plantera jamais un arbre en soi, et encore moins un olivier, dans une terre comme ça. Voilà. Résistance au chaud. Alors, l'olivier, c'est une plante qui ne renie pas ses origines. Ce sont quand même l'Afrique. Donc l'olivier, jusqu'à 35 degrés, avec une sécheresse terrible, résistera toujours. À partir de 38 degrés, il commence à souffrir, sans perte de récolte. À partir de 40 degrés, il va y avoir un petit dégât sur les feuilles. Et si la chaleur et la sécheresse continuent de durer, il va sacrifier ses fruits, il va stocker l'eau dans ses feuilles, il va se mettre en dormance, on est en été, mais il va se mettre en dormance pour résister des mois et des mois à la sécheresse. Il y a des oliviers aux portes du désert, pour ne pas dire dans le désert, qui ont simplement 100 mm d'eau par an. Je pense à la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, toute l'Afrique du Nord. Hein. Je pense à certaines îles aussi de la Méditerranée. Les oliviers, alors avec 100 mm d'eau par an, vivent. Par contre, la récolte est maigre. Si on devait produire des olives, si on est dans un pays où il n'y a que 100 mm d'eau, il faudra irriguer.
Voilà. Je crois que dans les recherches biblio qu'on fait les étudiants, ils parlaient d'environ 300 mm par an pour assurer une récolte, avec potentiellement de l'irrigation pour les phases un peu critiques.
L'idéal, c'est 600. Donc ici, on est deux fois plus. À peu près, ici, dans les Cévennes, on est même parfois plus encore. Du côté de Villefort, ils sont quatre fois plus. 600 mm sont allègrement suffisants. C'est un des rares arbres qui, quand on le plante, alors la première année, ça sera toujours bien de l'arroser une fois en juillet, une fois en août. On met 30 litres d'eau, point final. On arrose quand on le plante, point final. Donc aucun arbre ne supporterait d'être laissé pendant 3 mois sans arrosage la première année. Voilà, c'est l'olivier. Donc il résiste au chaud, il résiste au froid. Donc, la floraison intervient au mois de mai. Il est auto-fertile, c'est-à-dire qu'on peut ne mettre qu'une variété, et il est anémogame, c'est-à-dire que c'est le vent qui le pollinise. On n'a pas besoin d'abeilles, on n'a pas besoin d'insectes. Donc, c'est un avantage. Moi, je conseillerais à celui qui voudrait planter 100 oliviers, mais bien évidemment, d'essayer plusieurs variétés. Je fais exactement pareil avec mes tomates dans mon jardin. J'ai toujours 6, 8 ou 10 variétés parce que tous les ans, une fait mieux que l'autre. Et puis là, c'est encore autre chose, l'arboriculture, mais on ne se verrait pas de mettre que de la rainette du Vigan dans un verger. Il vaudra mieux mettre la moitié de rainette du Vigan et puis autre chose. Parce que déjà, il y aura une pollinisation croisée, même si l'olivier n'en a pas besoin. Ça améliorera le rendement. Et puis de toute façon, on se rendra compte au bout de quelques années qu'une variété fait mieux que l'autre.
C'est exactement ce qu'ont fait les agriculteurs. Voilà. Ils ont, pour certains, planté une dizaine de variétés différentes 50 ou 60 arbres.
Voilà. Au niveau de la rusticité, par exemple, tiens, on va prendre trois variétés. Dans le Gard, on a beaucoup l'habitude de planter la pitcholine. C'est l'olive même du Gard, autour de Nîmes. Pourtant, la pitcholine n'est pas la plus rustique. Vous avez la Luc, qui est de forme un peu croissant de lune, qui est plus cultivée dans le Languedoc de toute façon, en Provence aussi. La Luc est plus rustique que la pitcholine. Vous avez l'Auglandou aussi. Bon, vous en avez des centaines de variétés. Là, il faut vraiment essayer de multiplier les choix pour multiplier les chances.
À partir de quand on peut imaginer manger des olives?
Alors, voilà. Très, 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 très bonne question. Il a un seul défaut, l'olivier, et qui est en même temps sa force et sa qualité. Il a une pousse qui est assez lente et une longévité extraordinaire. Donc, les plus vieux oliviers de la planète ont 3000 ans. Donc, aucun arbre, même le plus vieux chêne, n'arrive à avoir un âge si vénérable. En plus, l'olivier a tendance à se cloner, tout simplement. Un olivier très, 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 très vieux, à un moment, il va mourir, mais il ne va pas mourir. C'est comme un figuier, on dit en Provence, il renaît toujours de ses cendres. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des petites repousses, toutes neuves, toutes belles, toutes fines, et on repart pour 3000 ans. Parce qu'à côté du vieux tronc, c'est un peu pareil pour le châtaignier. Quand ils ont été tous coupés, quand l'encre s'est abattue sur les Cévennes, ils ont tous été coupés, ils ont tous repoussé. Alors, non greffés, comme on dit ici en Bouscasse, la qualité de la châtaigne est moins bonne, ce qui n'est pas le cas de l'olivier. L'olivier, il se clone tout seul. Donc vous avez des oliviers qui n'ont pas d'âge. Ils n'ont pas d'âge parce qu'en plus, c'est difficile à trouver l'âge d'un olivier parce que ça pousse tellement lentement qu'il n'y a pas des cercles comme dans les arbres qu'on connaît. Alors, on peut espérer avoir des olives au bout de quelques années, oui. Moi, j'en ai eu au bout de 5 ou 6 ans. Je m'estime heureux. Mais on ne peut pas comparer l'olivier au pommier. Un pommier, au bout de 5 ans, vous aurez 20 kg de pommes. et au bout de 10-15 ans, vous aurez 30, 40, 50 kilos de pommes. Un olivier, sa période de début de fructification, alors sauf peut-être dans les en Espagne, dans les cultures industrielles, où vraiment ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour forcer la nature, le début de production apparaît au bout de 35 ans. Donc là, ma copine en face là, trépigne parce qu'elle vient de planter des oliviers. Elle a récolté 3 kilos d'oliviers. Elle dit c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Et si, c'est normal.
Non, mais au PETR, on travaille sur le long terme.
Voilà. Eh bien, c'est pareil avec les oliviers. Donc, la vraie production va commencer au bout de quelques dizaines d'années. Alors là, je vais en décourager. Hein. Mais de toute façon, comme je le dis toujours, même avec les pommiers, les poiriers et les pruniers, les arbres, on les plante pour ses enfants. On ne les plante pas pour soi-même. Alors là, c'est une notion aujourd'hui qui nous dépasse un peu, parce qu'on aime bien planter pour soi-même. On aime bien planter des arbres grands qui, dès l'année de plantation, quand vous achetez l'arbre, il y a même déjà les fruits sur l'arbre. Alors là, c'est comme ça. Parce que s'il n'y a pas les fruits sur l'arbre, ou si l'arbre n'est pas fleuri, les gens ne vont pas l'acheter. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la civilisation d'avoir tout de suite. Mais l'arbre, c'est pas ça. L'arbre, alors si on part d'un noyau ou d'un pépin, là on rajoute 5 ou 10 ans. Sachez que la multiplication de l'olivier, c'est un peu comme tous les arbres. Par noyau, c'est compliqué, c'est long, c'est aléatoire. Et en plus, vous n'êtes pas sûr d'avoir un bel olivier ou un beau pommier derrière. Peut-être que oui, peut-être que non.
Mais dans le Gard, il y a des pépiniéristes qui oui. commencent à travailler sur des variétés, en plus qui sont adaptées aux Cévennes, donc il oui. faut faire appel à eux. Il y aura tous les renseignements sur le
oui,
site.
Oui, 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 oui. Après, donc, l'olivier commence à produire, et si on l'entretient bien, il va produire à son maximum jusqu'à 150 ans. Donc de 35 à 150. Et ensuite, la production va diminuer, ça dépend de l'entretien. Que feront vos petits enfants de votre belle oliveraie que vous aurez vous planté. Alors, il faut savoir aussi au niveau de l'irrigation, l'olivier se satisfait de très peu d'eau. Donc, c'est un atout majeur pour les années futures où il fera chaud et sec. L'olivier, le maximum, on va dire, l'optimum, c'est 600 mm d'eau par an. Dans les Cévennes, on est plutôt autour de 1000, 1200, 1400, ça dépend des versants. Donc même l'endroit le plus sec des Cévennes méridionales, entre Sainte-Croix, Saint-André-de-l'Ancise, Saint-Étienne-Vallée-Française et j'en passe, Vialas, tous les villages ont plus que ça d'eau. Mal réparti, mais l'olivier résiste bien à la mauvaise répartition de la pluviométrie. Il peut passer tout l'été, 4 mois, 5 mois, sans eau. Alors après, la récolte sera moins bonne. Voilà. Je voulais dire aussi autre chose, parce que en se posant la question, est-ce que je peux planter un olivier chez moi? Alors déjà aussi, un autre avantage de l'olivier, il n'est absolument pas exigeant sur la qualité de la terre. Il aime tout. Il aime même les terres incultes. Il préfère les terres incultes, bien drainées, alors surtout au soleil, que les terres profonde de jardin au bord de l'eau. Ça, c'est pas un pommier. Voilà. Donc il faut savoir si vous avez des vincelles bien exposées au soleil, au milieu des figues de Barbarie, dans les Cévennes, il y en a un peu partout, au milieu des chênes verts, il y en a un peu partout, eh bien vous pourrez planter des oliviers sans problème. J'ai trouvé un arbre qui ressemble énormément à l'olivier quant aux exigences culturales. Et pourtant, ce n'est pas du tout un arbre de la famille des oléacées. Parce qu'on dit bien que l'olivier fructifie bien quand les hivers sont plus doux que moins 10 degrés. Bon, moi, personnellement, ils ont toujours fructifié, puisque la floraison intervient au mois de mai. Donc, je dirais même que l'olivier aime un hiver plus ou moins rigoureux, du moment que l'été est long et chaud et ensoleillé. Voilà. Eh bien, c'est le figuier. Alors, c'est facile de savoir en Lozère où il y a des figuiers. À Hispaniac, il y en a partout. Et le figuier résiste à moins 15. Pas un degré de plus, pas un degré de moins. S'il est à moins 16, moins 17, il gèle quasiment en entier. À moins 20, alors là, à zéro, hein, il ne reste plus rien, il repart en général. Mais quand il fait moins 14, ce que j'ai eu donc en 2012, mes figuiers que j'avais plantés n'ont absolument pas gelé. Donc au niveau des températures minimum, je trouve que l'olivier ressemble bien aux figuiers. Si vous avez des figuiers partout chez vous, eh bien vous pourrez planter des oliviers. Je pense que l'exigence est à peu près la même. Je dirais que l'exigence est aussi la même que le chêne vert. Bien que le chêne vert soit un peu plus rustique au froid, en 56, les chênes verts avaient gelé dans les Cévennes. Mmh. Ma tante me l'a raconté. À Saint-Germain-de-Calberte, les chênes verts avaient gelé. Mais il avait fait moins 20. Voilà. Je pense que c'est un bon indicateur. Vous savez que si vous avez des figuiers, eh bien vous pouvez mettre des oliviers. Il faut savoir aussi que le climat qui change, c'est vrai, moi, ça fait à peu près 50 ans que je jardine. Quand j'étais petit, j'étais à Vébron, altitude de 641 mètres. Et je me souviens que les figuiers à Vébron, ils avaient vraiment du mal. Ils gelaient tous les 2 ou 3 ans. Il fallait vraiment les mettre contre une maison, au sud, à l'abri. Certaines variétés plus que d'autres. Et on arrivait difficilement à avoir des figues parce que tous les 2 ans, ils gelaient, ils repoussaient. Mais comme ils n'avaient pas le temps de pousser, on faisait peu de récoltes. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on plante des figuiers partout, que ce soit à Vébron, que ce soit à Hispaniac, on les plante en plein vent. Moi, dans mon jardin, au bord du Tarn, au bord de l'eau, en plein vent, j'ai planté des figuiers, ils sont magnifiques. Ils ne sont même pas protégés par rien en plein nord. Mmh. C'est dire si le climat a changé, et c'est dire si on peut avoir espoir de pouvoir planter des choses comme les oliviers.
Mais merci à toi pour cette conclusion pleine d'optimisme.
Ai-je tout dit ?
Est-ce que tu peux nous donner les prochains rendez-vous de Jardin Nature 48 ?
Alors le prochain rendez-vous à ne pas louper, c'est à Hispaniac, dans mon jardin, le 28 février. Et nous allons semer les solanacées, tomates, poivrons, aubergines. C'est un atelier que j'ai déjà fait, mais je le refais parce que les gens sont demandeurs. C'est très valorisant de pouvoir faire ces tomates soi-même. On choisit des variétés intéressantes. On va semer des tomates ananas. On va semer des tomates qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ont du goût.
Et puis ça va nous permettre de penser au soleil.
Voilà, ça va faire revenir le beau temps.
Ben, je te remercie et puis à bientôt pour une prochaine émission Chaud Patate.
Allez, au revoir.